parce que c'est clair que on peut pas appliquer ce qui s'applique au voisin à tes finances à toi, parce que les finances de ton voisin sont complètement différentes des tiennes. La réalité est complètement différente aussi, ce qui fait que ce qui fonctionne pour ton voisin ne fonctionnerait peut-être pas du tout pour toi. Donc, c'est important d'aller chercher nos conseils auprès de professionnels comme des conseillers en sécurité financière dans mon cabinet adulte responsable.
Bon, alors, c'est quoi les bons conseils pour les jeunes? Là, quelqu'un qui commence dans la vie, c'est un peu mêlant, là, toute la question des finances personnelles, investir, acheter une maison, emprunter, trouvez-vous une job. Tu sais, il y a tellement de choses auxquelles il faut penser. Quand on commence, c'est quoi les 2-3 conseils de base?
La première étape, ça serait de faire un budget. Même si c'est plate, même si ça ne tente pas, c'est très important parce que ça te prend un portrait global de tes finances actuelles pour savoir où est-ce que tu veux aller par la suite. Hein? Sinon, ça ne va pas très bien pour déterminer le chemin pour te rendre. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ne pas négliger le peu d'argent peut-être qu'on gagne, qu'on est capable de mettre de côté, mais cet argent-là, il vaut vraiment, vraiment beaucoup plus que ce qu'on pense avec l'intérêt composé. Donc, c'est très important. Même si c'est juste un 25$ par mois, fais-le, habitue-toi à mettre un peu d'argent de côté, puis ce 25$-là, tu vas être vraiment content de l'avoir mis de côté éventuellement. Puis, je te dirais, troisième conseil, ne pas hésiter à poser des questions puis à aller voir des professionnels, parce que c'est pas de notre faute, là, si on connaît pas tout en dans les finances. On a une très grande lacune au niveau de l'éducation financière. Donc, il n'y a jamais de questions niaiseuses. Des erreurs, par contre, ça peut coûter cher.
On a des lacunes importantes au Québec sur l'éducation financière. Est-ce que c'est pire ici qu'ailleurs?
Je pense que oui, parce que malheureusement, au Québec, on a vraiment ce préjugé-là envers les gens qui réussissent. Donc, on a encore beaucoup plus de tabous, je dirais, que, par exemple, aux États-Unis, où on met de l'avant la liberté financière, les entrepreneurs, les business, toutes ces choses-là. Je dirais que c'est peut-être plus de ce niveau-là.
Alors, donc, il y a du travail à faire. C'est drôle, un petit peu plus tôt dans l'émission, on parlait de l'école, puis des programmes qui sont offerts, puis bon, c'est un petit peu hors sujet, mais quelqu'un disait il faudrait qu'on enseigne plus des questions de d'éducation financière. Il faudrait montrer plus à nos jeunes dans les écoles.
Puis c'est étonnant, hein, parce que parfois, là, j'y rencontre les enfants de mes clients qui ont comme 5-6 ans, là, puis ils sont intéressés pour vrai, puis ils comprennent. Puis quand je leur explique c'est quoi de l'intérêt composé, je te dirais que leur petit cochon, il se remplit pas mal vite, puis il arrête de dépenser dans de la glu, là. Fait qu'on peut, selon moi, on a les capacités intellectuelles au Québec pour pouvoir apprendre ça très jeune, autant qu'on le fait déjà pour apprendre l'anglais, tu sais. Fait que selon moi, les finances, c'est comme une autre langue, littéralement, là.
Et est-ce que tu penses que ça va changer? Est-ce qu'on va devenir plus sensible à toutes ces questions d'éducation financière?
C'est une excellente question. Je pense que présentement, on a des problèmes peut-être plus importants à gérer au niveau politique, économique, puis social. Ce qui fait que peut-être que l'économie, l'éducation financière n'est pas une de ces priorités-là pour l'instant. C'est sûr que je vois de plus en plus de gens comme dans mon entreprise où on milite pour l'éducation financière parce qu'on pense que c'est une des solutions pour combattre les inégalités sociales. Mais est-ce que là, on va voir des cours d'éducation financière qui vont commencer au primaire d'ici les prochaines années? Je serais quand même étonnée, malheureusement.
Et il y a de plus en plus, ça c'est une bonne nouvelle, il y a de plus en plus de livres là, qui se vendent au Québec, en français, par des gens d'ici, écrits par des gens d'ici, sur la gestion des finances personnelles.
Tout à fait, comme Elle investit, qui est excellent, que je recommande à tout le monde, ou notre fameux, notre très connu Pierre-Yves McSween avec son Liberté 40,
bien
sa facture amoureuse, en as-tu réellement besoin ou en as-tu vraiment besoin, c'est excellent, je recommande à tout le monde, puis c'est très bien vulgarisé, donc même si on n'est pas nécessairement quelqu'un de passionné par les finances, ben il y a quand même quelque chose de très intéressant et très accessible dans ces livres-là.
Mais tu sais, au fond, c'est pas une question, la motivation, ça devrait pas être si on est passionné ou non par les finances personnelles, c'est parce que les finances personnelles, là, qu'on le veuille ou non, c'est au cœur de nos vies, là.
Tout à fait. Peu importe c'est quoi nos valeurs, peu importe de quel milieu social on vient, peu importe c'est quoi nos objectifs, on n'aura pas le choix de fonctionner avec l'argent d'une quelconque manière parce qu'on vit dans ce monde-là, dans ce monde capitaliste qui est à la base même de comment on fonctionne présentement. Fait que peut-être qu'un jour, on va changer de modèle. Peut-être, qui sait, mais d'ici là, on n'a pas trop le choix.
Non, je pense pas que ça va être pour demain. Gabrielle Gauthier-Veillette, tu es TikTokeuse et conseillère en sécurité financière chez Adulte Responsable. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Bonne journée. Au retour, eh bien, on parle du refus de Poste Canada de récupérer des armes qui sont maintenant bannies par le gouvernement fédéral.
Pour tout savoir ce qui se passe dans notre région, ne manquez pas la chronique culturelle avec Hugo Étier du lundi au vendredi à 9h35 et une formule plus détaillée les jeudis à 12h15 sur les ondes de CFIX FM 93.
Avril et le soleil sont déjà de retour et les portes de la résidence Seigneur Lepage sont grandes ouvertes pour accueillir de nouveaux résidents. Courez en plus la chance de gagner un mois de loyer gratuit. Prenez congé de la lessive, du ménage et des repas. Installez-vous confortablement dans une résidence pour aînés qui a du cœur. Une résidence où vous vous sentirez tantôt comme au resto, tantôt comme à l'hôtel, mais toujours comme chez vous, à la résidence Seigneur Lepage de Rimouski. Contactez Mélanie au 418-723-0243. Elle vous expliquera les règles de notre concours et l'ensemble des services offerts par notre résidence.
Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente d'étiquettes rouges présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
Co-emploi. Vous aimez les Ram, les Dodge, les Jeep? Michaud Auto, un concessionnaire familial solide en affaires depuis 105 ans, est à la recherche d'un technicien en mécanique automobile. Les meilleures conditions dans le marché à Rimouski. Belle ambiance de travail en bonnie. Informez-vous de notre prime à l'embauche. Vous nous référez un candidat, on vous récompense. Viens nous rencontrer au 380 boulevard Arthur Buis Est ou envoie ton CV à gtremblay@michaudauto.ca.
Votre imprimante a besoin d'être réparée? Vous trouvez que les cartouches d'encre sont trop chères? DPI Technologies a la solution. Spécialisée en réparation d'imprimantes pour particuliers et entreprises et en vente de cartouches d'encre, nous pouvons vous aider. Venez nous voir au 76 Saint-Germain-Ouest pour l'évaluation du coût de réparation de votre appareil et venez profiter de notre promotion de 15 à 25 d'escompte à l'achat de deux cartouches et plus d'encre. Faites vite, la promotion se termine le 30 avril chez DPI Technologies.
Applicable sur les cartouches compatibles.
Rimouski 93.3.
Voici Philippe Contin.
Le gouvernement fédéral veut récupérer des armes qui sont maintenant bannies par la législation. Alors, c'est une intention qui est noble. Maintenant, pour récupérer ces armes-là, ben, il faut trouver un moyen. Comment on les récupère? Alors, une idée qui a été évoquée, c'est de convaincre les citoyens qui détiennent des armes comme celle-là, des armes d'assaut comme les AR-15, par exemple, de se rendre dans un bureau de poste. Il y aurait un certain nombre de bureaux de poste qui seraient identifiés et les gens pourraient aller remettre leurs armes-là. Mais voilà qu'on apprend que Poste Canada a dit non, il n'y en est pas question, ce serait dangereux pour nos employés. On veut pas être l'endroit au Canada où les gens vont aller remettre leurs armes. C'est une attitude qui ne fait pas l'unanimité. Aujourd'hui, Police se souvient, là, qui est un groupe qui réagit à toutes les questions sur les armes à feu, dénonce la décision de Poste Canada en disant que les motivations qui sont véhiculées par Poste Canada ne sont pas très convaincantes. Alors, c'est un dossier extrêmement complexe, très sensible aussi. J'en parle avec Francis Langlois, qui est spécialiste des armes, professeur au Cégep de Trois-Rivières et membre de la chaire Raoul Dandurand. Professeur Langlois, bonjour.
Bonjour Philippe.
Expliquez-moi, professeur Langlois, comment toute cette histoire commence.
Donc, en 2020, il y a eu une fusillade à porte-à-pique en Nouvelle-Écosse. Et à ce moment-là, suite à cette tragédie-là, le gouvernement de Justin Trudeau a passé un décret qui interdit, bon, disait-il à ce moment-là, autour de 1500 modèles de fusils semi-automatiques, donc essentiellement des versions civiles, si vous voulez, de fusils d'assaut. Et ensuite, on a décidé d'enchâsser ce décret-là dans une loi, donc le projet de loi C-21, qui a été adopté l'année dernière, et dans lequel, ben, effectivement, on cherche à interdire ces modèles-là. Et bon, il reste encore des petits trucs à finaliser, mais depuis 2020, les propriétaires de ces armes-là qui sont bannis, notamment les modèles de AR-15, ces choses-là, ils ont une amnistie pour les posséder, mais peuvent pas les utiliser, peuvent pas les vendre, peuvent pas les échanger, et à part les remettre au gouvernement, peuvent finalement rien faire avec. Donc, ça fait 4 ans là, qu'ils attendent. Et là, j'ai l'impression, je suis pas certain, parce qu'évidemment, j'ai pas d'antenne au gouvernement en ce moment, mais j'ai l'impression qu'on voulait faire un peu comme ce qui a été fait en Australie, en Angleterre, dans les années 90, et plus récemment en Nouvelle-Zélande. Donc, charger les autorités policières de récupérer ces armes-là, et donc éventuellement on aurait remboursé, j'imagine, les propriétaires. Puis là, certaines provinces se sont opposées à ça, et j'imagine, encore là, c'est de la supposition, mais bref, on s'est tourné vers Post Canada, et comme vous l'avez si bien dit, Post Canada a dit non merci. Donc voilà, c'est un peu le topo, si on veut, en quelques lignes.
Mais si on trouve pas une solution à ce problème-là, les armes, on les récupérera pas, et elles vont rester chez les gens qui les détiennent actuellement.
Donc, effectivement, il va falloir que non seulement le gouvernement trouve un moyen de récupérer ces armes-là, et il est à noter qu'une partie de celles-ci ne sont pas répertoriées. Donc, le gouvernement a une idée de qui les possède, de combien il y en a, mais plusieurs de celles-ci étaient considérées comme des armes à autorisation non restreinte. Donc, je pense ici au Ruger Mini 14 qui a été utilisé pour la tragédie de Polytechnique. Et ça, donc, c'était considéré comme, disons, une arme de chasse, si vous voulez, une arme à autorisation non restreinte. Donc, il y en a beaucoup en circulation au Canada, mais le gouvernement, depuis la destruction des données du registre en 2012, ne sait pas qui les possède, combien il y en a en circulation. Et donc, il va falloir se fier effectivement au bon vouloir des Canadiens et des Canadiennes qui les possèdent. Donc, ça, c'est il y a ce problème-là. Puis ensuite, vous l'avez dit, il y a tout le problème de la manutention. Comment est-ce qu'on récupère ces armes-là? Éventuellement, il y a un autre problème, celui de la destruction. Et pour un projet de loi qui a pris 4 ans à élaborer, je suis un peu surpris là du fait qu'on se retrouve devant cette situation-là.
Est-ce que ça pourrait fonctionner, un programme de remise volontaire? Disons qu'on trouve un endroit, que ce soit dans Poste Canada, dans des bureaux de Poste Canada ou ailleurs, là, peu importe la solution qui sera finalement trouvée. Est-ce que ça va fonctionner?
Ça a fonctionné. Vous voyez, en 1996, donc il y a eu deux tueries simultanées, ou presque, là, en Australie et en Angleterre. Et dans les deux cas, on a amendé la loi et on a décidé de retirer de la circulation, notamment les versions civiles de fusils d'assaut, là. Et dans certains cas, donc certains modèles aussi d'armes de poing. Et puis, bref, les gens ont répondu à cet appel-là, effectivement. Donc, on en a retiré. Donc, en Australie, si je ne me trompe pas, c'est autour de 600 000. Là.
Combien?
Et on a fait autour de 600 000.
600 000.
Oui. Et puis, ça coûtait extrêmement cher, mais on a, depuis ce temps-là, en fait, depuis les années 90, à part une en Australie, il n'y a pas eu de fusillade de masse dans aucun des deux pays. On a fait la même chose en Nouvelle-Zélande, suite à la fusillade de Christchurch. Et donc, là aussi, on a demandé aux gens de remettre leurs armes. La Nouvelle-Zélande a un problème similaire à celui du Canada, c'est-à-dire qu'elle non plus n'était pas au courant exactement de combien de ces armes-là étaient en circulation sur son territoire. Et donc, c'est évidemment laissé au bon vouloir des citoyens. Mais ceci étant dit, il reste que... si c'est interdit de les utiliser, de les échanger et de les vendre, quelqu'un peut pas aller au chantier avec ces armes-là et les utiliser parce que, bon, effectivement, en théorie, ils devraient être dénoncés là, parce que ces armes-là sont illégales. Donc, ça ne fait pas grand-chose pour l'instant, en tout cas, de les garder. Là.
Alors, une des premières réactions là, à la nouvelle d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce refus de Poste Canada là, de recevoir les armes, nous vient de Police se souvient. Alors, Police se souvient, se déclare profondément déçu du refus de Poste Canada. Et là, dans le communiqué qui est publié aujourd'hui, on dit, écoutez, Poste Canada, c'est une société d'État qui appartient au gouvernement fédéral et qui détient, et là, je cite le communiqué, qui détient une vaste expérience en ce qui concerne le transport sécuritaire utilisés de millions de copies annuellement, y compris la livraison d'armes à feu pour les fabricants et commerces d'armes. Conséquemment, il est inacceptable que Poste Canada ne fournisse pas son expertise au gouvernement fédéral dans ce dossier-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je comprends parfaitement leur colère parce que ça fait des années. Donc, M. Trudeau et son parti avaient promis en 2015 de légiférer sur les fusils d'assaut. Ils ont attendu. Et donc, il y a eu la tragédie dont on parlait tout à l'heure en Nouvelle-Écosse. Finalement, on a commencé à bouger à ce moment-là. Donc, je comprends qu'elle soit déçue.